Vous suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Au cours de l'année, plusieurs grands rendez-vous mettent en avant les acteurs de la lutte contre le cancer. Octobre rose, Movember, journée mondiale de lutte contre le cancer pour informer, pour mieux comprendre les nombreux défis liés à la prévention et à la prise en charge de ce qui constitue aujourd'hui la deuxième cause de mortalité dans le monde. Un homme sur cinq, une femme sur six développeront un cancer au cours de leur vie. Et lorsque l'on sait qu'en termes de guérison, de rémission, le diagnostic précoce et la qualité du traitement sont essentiels, on comprend qu'à l'échelle planétaire, en fonction de notre lieu de vie, de notre niveau d'éducation, de nos moyens, nous ne sommes pas égaux face au cancer. D'où l'importance de la mobilisation des médecins, des chercheurs, des associations, des pouvoirs publics pour sensibiliser sur ces maladies. Car si l'usage veut que l'on parle le plus souvent du cancer au singulier, dans les faits, cette grande famille d'affections induit des axes d'approche et de traitement bien spécifiques. Qu'est-ce qui est pertinent en termes de prévention? Quel public faut-il ciblé dans le cadre des campagnes de dépistage? Pourquoi est-il important d'orienter le patient vers le bon service? Expliquer dans quelle mesure un suivi médical rigoureux est essentiel. Sensibiliser, c'est aussi parler des progrès, de l'espoir en termes de traitement, en termes d'amélioration des pronostics et toujours d'alerter sur l'inégalité en matière d'accès aux soins, encore plus cruciale lorsque le pronostic vital du patient peut être engagé. Parler du cancer, s'informer, ne pas rester avec ces questions, comprendre l'importance du dépistage. Et avec nous dans les studios de RFI, Dr Tambo Batili, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes oncologue médical à Gustave Roussy à Villejuif, en région parisienne, également membre de l'ONG Onco Mali. En deuxième partie d'émission, on va retrouver le président du conseil scientifique de la Fondation ARC, professeur Éric Solari, professeur d'hématologie à la faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay. La Fondation qui a réactualisé son ouvrage intitulé « Les révolutions de la recherche sur le cancer », un livre qui recense les 20 années de recherche dans ce domaine de la lutte contre le cancer. Et puis à la veille de la journée du sommeil du 17 mars, on va parler du lien entre sommeil et santé mentale avec le docteur Isabelle Poirot, qui est psychiatre et spécialiste des troubles du sommeil au CHRU de Lille.
Priorité santé sur RFI.
Et c'est vrai que quand on parle du cancer, c'est une forme d'exercice d'équilibriste entre espoir, avancée en matière de traitement, de dépistage, communication sur la prévention et puis toujours ces chiffres qui peuvent être extrêmement angoissants. Docteur Tambo Batili, il y a un message essentiel, c'est bien celui de la prise en charge précoce des cancers parce que c'est complètement crucial pour augmenter les chances de réussite des traitements.
Complètement. Aujourd'hui, la prise en charge du cancer, on sait qu'on a des traitements depuis 20 années qui ont avancé la prise en charge, mais ce n'est pas suffisant. Quand on regarde le nombre de nouveaux cas de cancer dans le monde, 19 millions, le nombre de cas de décès est quand même 10 millions, il y a encore du progrès à faire. Donc ça passe par la prévention, et cette prévention, c'est les facteurs de risque qu'il faut réduire, facteurs environnementaux. Dès qu'on agit sur ces facteurs et faire la prévention, tout ce qui est dépistage, on arrive quand même à détecter le cancer à un stade précoce. On sait que quand un cancer est pris de façon précoce, 80% de chances de guérison. Donc là, l'accès aujourd'hui sur le cancer, on va sur cette prévention qui est cruciale pour pouvoir éradiquer cette maladie.
Et on va voir que le système de soins, la qualité des systèmes de soins, c'est un élément essentiel.
C'est fondamental.
On va le voir tout à l'heure avec nos auditeurs qui seront en ligne. Parce que c'est vrai que c'est une véritable question, docteur Tambo Batili. Comment parler du cancer à la fois sans faire peur et en même temps sans minimiser la réalité de ces maladies? Je vais être très cru. Les gens qui entendent à la radio ce matin dans tes priorités santé le mot cancer, est-ce qu'ils n'ont pas envie de tourner? Parce qu'ils vont dire, ça va plomber ma journée, ça va être lugubre, etc. Non, au contraire. En parler en parlant de recherche, en parlant d'espoir et puis en répondant à des questions concrètes, parce que le cancer, c'est pas forcément les autres. Avant, c'est vrai, on disait d'une longue maladie. C'était la maladie dont on ne devait pas prononcer le nom, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en parle finalement plus facilement?
Aujourd'hui, on peut dire qu'on facilement, ça dépend des pays, ça dépend de beaucoup de facteurs. ce que moi je remarque, on voit quand même sur la courbe du VIH. La courbe du VIH dans les années 80, donc le cancer, on est dans la même direction. Donc aujourd'hui, en 2022, on va dire que facilement, dans la famille, dans notre entourage, chacun a quelqu'un quand même qui a un cancer. Donc avec ça, on arrive quand même à être concerné, à être frappé par cette maladie, à en parler plus facilement. Mais en termes de communication, il reste beaucoup au niveau du travail, parce qu'en fait, l'être humain est programmé à faire qu'il y ait du positif. Quand vous parlez de tout ce qui est cancer, maladie, tout court, dans les réunions de famille ou ailleurs, on dit, on touche du bois, on n'en parle pas. Donc ça reste un sujet tabou. On sait qu'une personne dans sa vie est confrontée quand même à faire un cancer avant 80, 90 ans. Donc là, il faudra quand même intégrer ces discours au niveau à l'école, au niveau du travail, pour essayer de dédramatiser le cancer. Et heureusement qu'il y a des gens qui guérissent du cancer.
Et souvent, justement, on va le voir en cours de l'émission, quand il y a un dépistage précoce, ce sujet est vraiment quelque chose de très important, la prévention des cancers. Et puis, il y a des tendances qui évoluent. Par exemple, on a pu lire dans la presse ces dernières semaines cette hausse significative des cas de cancer du pancréas en France. 15 000 nouveaux cas par an contre 10 000 en 2010. Une hausse donc du taux d'incidence. Et si on en parle aussi autant, c'est parce que ce cancer, ça reste associé à un très mauvais pronostic. Pour comprendre, il est extrêmement mortel. On ne le soigne pas bien. Survie sur 5 ans inférieure à 10%. On cherche forcément à comprendre pourquoi il y a cette augmentation, docteur Tambobatili, des cancers du pancréas. Est-ce qu'on le sait ?
Alors, le cancer du pancréas, c'est un cancer dont, pour détecter ces cancers, on va dire, c'est difficile. Quand on détecte un cancer du pancréas, c'est trop tard.
Donc là, quand il y a des symptômes qui se ressemblent dans le corps.
C'est des symptômes qui ressemblent à tous symptômes un peu bâtards de troubles digestifs. On a mangé quelque chose qu'on n'a pas digéré. On a un peu mal au ventre. On perd du poids. Donc, c'est un cancer qui est difficile. Aujourd'hui, l'augmentation en 2010 sur le chiffre de l'INCa, c'est 10 000. 2018-2020, on est à 15 000. Donc, on a à peu près 2,6 à 3 % d'augmentation des cancers du pancréas. Donc, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, en 2022, entre 2018 et 2022, quelle est la proportion qui augmente ? Les gastro-entérologues alertent qu'il y a une augmentation. On remarque, nous, dans nos pratiques, voir des jeunes patients de 50 ans, 60 ans, qui ne sont pas très âgés, qui développent facilement un cancer du pancréas. Le facteur de risque qui est incriminé, qui est connu pour le cancer du pancréas, qui est bien étudié, solide, c'est le tabac. Le tabagisme, ça reste quand même le facteur primordial. Après, on a l'alcool qui donne l'inflammation du pancréas, qui donne des pancréatites chroniques qui peuvent devenir des cancers du pancréas. On a aussi l'obésité, qui est un signe aussi. On remarque l'obésité, c'est des gens qui font des cancers du pancréas. On remarque aussi, c'est les diabétiques. Alors, c'est moins clair, c'est les diabétiques, les études. On remarque, c'est les diabétiques qui font quand même des cancers du pancréas. Après, il y a une cause qu'on ne sait pas trop, qu'on est en train de s'intéresser. Ça, c'est tout ce qui est produits, tout ce qui est protéines, tout ce qui est gras. Donc, qui est impliqué actuellement dans les cancers du pancréas. Mais il faut l'étudier. Il n'y a pas des données très solides.
On recherche les facteurs de risque. Docteur Batili, on va prendre une première question d'auditeur. Pour ça, on rejoint la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
En ligne avec nous, Fofana, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, vous avez 50 ans, Fofana, et on vous a annoncé, il y a moins d'un an, que vous étiez atteint d'un cancer. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer suite à quels symptômes vous avez consulté ?
Bon, au début de ma maladie, en fait, très faible, puis toujours des petits bobos malades, des maux de tête, tout et tout. Je suis allé, j'ai fait beaucoup de hôpitaux. Après, maintenant, et les gars n'arrivent pas à trouver la maladie, en fait. Je suis allé dans le centre des sœurs à Bogouan-le-Bois. Maintenant, ils m'ont dirigé vers le CHU de Bobo-Dioulasso.
Donc, alors, je vais juste reprendre dans ma voix parce que, hélas, la ligne n'est pas excellente. Vous avez consulté, vous êtes après plusieurs autres consultations, vous avez abouti à l'hôpital de Cocody d'Abidjan parce que vous aviez notamment des maux de tête. Et là, qu'est-ce qu'on vous a dit en termes de diagnostic, Fofana?
En termes de diagnostic, ils ont fait plusieurs diagnostics. Après, maintenant, ils m'ont dit, monsieur m'a dit qu'il y avait un cancer du sang.
Un cancer du sang. Et, vous avez, et à ce moment-là, quand on vous a dit leucémie, vous aviez déjà entendu parler des cancers du sang ou c'était la première fois que vous en entendiez parler?
J'avais vu ça dans les films.
Mmh. Vous aviez déjà vu ça? Vous avez eu un traitement? De quoi s'agit-il?
Actuellement?
Oui.
Oui, je suis un traitement qui est le Glivec.
Le Glivec. Et quand on a préparé cette émission, vous nous avez expliqué qu'à un moment donné, vous avez eu une interruption de traitement. Pour quelle raison?
Pour raison de moyens.
De moyens, c'est-à-dire que vous n'aviez pas l'argent pour payer le Glivec. Est-ce que c'était aussi, Fofana, compliqué pour régler les factures des consultations?
Oui, c'était pour la consultation.
Et maintenant, vous avez repris à la fois le traitement et les consultations, c'est ça?
Oui, madame. Oui, madame.
L'interruption du traitement, elle a duré combien de temps, s'il vous plaît?
À peu près 10 semaines.
Mmh. Alors, je vais me tourner vers le médecin qui est avec nous en studio, Dr Tambo Batili. Sans trop rentrer dans les détails, bien sûr, on va parler de tous les traitements, tous les noms de médicaments. Mais ce Glivec, ce médicament qui a été prescrit à notre auditeur d'Abidjan Fofana, c'est quoi exactement?
Alors, le Glivec, c'est une molécule qu'on a découvert il y a une vingtaine d'années, qu'on traite, c'est ce qu'on appelle des inhibiteurs des tyrosines kinases. C'est une petite molécule qui cible une anomalie. Donc, ce qu'on appelle une thérapie ciblée. Donc, dans le cas de Fofana, certainement, il y a une anomalie dans le gène. Et cette anomalie de dérèglement du gène, on cible la molécule avec ça. C'est ce qu'on appelle une thérapie ciblée. Mm-hmm. C'est une molécule qui cible une anomalie qu'on a détectée dans son gène et qui va cibler et pour essayer de réparer que le cancer régresse.
Fofana qui a été confronté donc à des problèmes très concrets pour suivre son traitement, le médicament qui coûte cher, les consultations ça coûte cher aussi. Et Fofana, vous avez plusieurs questions à poser à notre invité, au docteur Tambo Batili. On vous écoute pour vos questions.
Oui, ma première préoccupation actuellement, je suis venu en consultation pour une boule qui est formée au niveau des aisselles.
Oui.
J'aimerais savoir que ça, plus que quand j'ai commencé le traitement, je n'avais plus ce genre de grippe encore.
Mm-hmm.
En plus de ça,
oui, Fofana.
L'hiver que je consomme, je prends, ça peut traiter la maladie, puis que ça finit définitivement. Il y a un traitement adéquat pour que ça. Voit plus la maladie.
La question, vous posez la question, là, je vais reformuler parce que je n'ai pas bien compris. Est-ce que ça, votre question, c'est est-ce que le Glivec marche vraiment pour ce que vous avez ou est-ce qu'il faut prendre un autre traitement? Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce n'est pas nous à la radio qui allons vous dire d'arrêter ce traitement parce que c'est impossible et puis que ce serait complètement contraire à l'éthique. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est de savoir si effectivement ce médicament a fait ses preuves. Quand on regarde des études, on ne peut pas parler de votre cas en particulier, bien sûr, mais qu'il y a eu des études sur ce type de cancer. Donc la première question que posait Fofana, il présente actuellement une boule au niveau de l'aisselle et il disait qu'avant, quand il était traité avec ce médicament, ce genre de symptômes avait disparu. Ça peut être quoi ce genre de boule? Est-ce que c'est des ganglions?
Alors, ce que j'entends, M. Fofana, au niveau de la boule, elle est comment? C'est sous le craie axillaire. Est-ce qu'elle est dure, elle est ferme, elle est comment, cette boule?
Elle est ferme.
Elle est ferme.
Elle est ferme. Donc là, effectivement, cette boule, donc, je pense qu'il faudra quand même voir votre hématologue, qui est le spécialiste.
Mais actuellement, Fofana, vous êtes à l'hôpital, hein, c'est ça, pour cette boule?
Oui.
Oui, donc voilà. il est pris en charge.
Donc
pour
si
ça,
vous êtes
en
pris
moment.
En charge, effectivement, il faut faire quand même une exploration par une échographie en général et faire un prélèvement, ce qu'on appelle une biopsie, renvoyer ça au laboratoire. Est-ce que c'est en rapport avec votre leucémie myéloïde chronique? Donc la question qu'on se pose, le traitement, quand on initie votre traitement, à un moment, il faut évaluer le traitement, l'efficacité du traitement. Et ce qui est difficile en Afrique, c'est que le traitement, au départ, faire les bilans de départ, faire le bilan des suivis tout ça, ça coûte cher. L'observance des traitements, où il y a des traitements qui sont interrompus, on a du mal à savoir est-ce que la molécule est efficace ou pas, parce qu'il y a des interruptions aussi. Donc là, il faut faire un prélèvement pour savoir est-ce que c'est une rechute de votre maladie ou pas. Et une fois que c'est ça, le Glivec peut être repris et qui est très efficace. Et sinon, on change de traitement pour d'autres molécules qui peuvent être aussi très efficaces.
Donc ça, c'est vraiment l'équipe qui s'occupe de Fofana qui va décider. Fofana, vous aviez aussi une question qui concerne l'un de vos amis. On vous écoute.
Oui, j'ai un ami. Lui, il a eu la même maladie, mais plus avancée parce qu'ils l'ont mis sur chimiothérapie.
C'était votre ami, il travaillait au même endroit que vous, c'est ça?
Moi, je suis conducteur, lui, il est électricien en électronique.
Mais vous travaillez sur le même site, au même endroit, dans le même environnement?
C'est quelques rapports, je l'accompagne dans son travail.
D'accord. Et cet ami, il avait exactement la même leucémie ou un autre cancer?
Non, c'est un cancer du sang, mais plus avancé.
Un cancer du sang. Donc la question de Fofana, c'est est-ce qu'il est possible qu'il y ait un lien, justement, deux personnes qui travaillent un petit peu dans le même cadre, même si Fofana vous dit que ce n'est pas exactement toujours au même endroit. C'est vrai que c'est compliqué de répondre à ce genre de questions, mais ça peut poser question quand on a un collègue qui développe exactement la même maladie.
Il faudra qu'on sache exactement la maladie de son
collègue.
Sinon,
on ne peut pas se prononcer comme ça à distance.
On ne peut pas se prononcer comme ça pour savoir quel type... On sait qu'il y a certaines leucémies qui peuvent être liées à une exposition à des toxiques, si vous avez dans des conditions environnementales. Mais il faudra savoir le type, est-ce que c'est une leucémie ou est-ce que c'est juste un autre cancer qui est avancé.
Ça peut être complètement différent aussi par rapport à des habitudes de vie, des facteurs extérieurs.
C'est juste peut-être une coïncidence.
Une simple coïncidence. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Fofana. C'est maintenant du Bénin de Parakou que nous avons un appel. Avec Paul qui nous a envoyé ce message. Question enregistrée sur le répondeur de l'émission, on l'écoute tout de suite.
Bonjour à tous, moi c'est Paul, j'ai 26 ans, je vis à Parakou au Bénin. J'ai plusieurs préoccupations concernant deux grands types de cancers. Il s'agit en premier lieu du myélome. En fait, j'ai un oncle qui est décédé de ce cancer au mois d'août. Il a fait à peine un mois et demi de maladie. Au départ, il se plaignait d'une douleur à l'estomac, d'être hospitalisé pour ça. Ensuite, c'était les côtes, les os de la colonne vertébrale qui lui faisaient très mal. Il se peignait atrocement de douleur. Après la radiographie, on s'est rendu compte que ses os étaient cassés. Après les examens approfondis, on a constaté qu'il avait ce cancer-là et il en est décédé. Je voudrais savoir s'il y a des signes avant-coureurs de ce type de cancer afin de faciliter une prise en charge précoce et rapide. Ensuite, concernant le carcinome, il m'a été suspecté ce cancer-là et j'aimerais savoir quelle différence y a-t-il entre un carcinome et un mélanome de manière visuelle, si c'est possible d'avoir une différence visuelle. Et en même temps, si quelqu'un peut avoir à la fois un carcinome et un mélanome, merci.
Alors, plusieurs questions de Paul. Première chose, myélome qui a été fatal à un membre de sa famille, qu'est-ce que c'est le myélome?
Alors, le myélome multiple, ça reste un cancer hématologique qui atteint complètement la moelle osseuse et l'os en général, qui est lié à une anomalie des protéines, ce qu'on appelle des immunoglobulines, qui sont sécrétées, qui vont attaquer l'os pour essayer de ronger l'os et qui vont entraîner des fractures, des douleurs osseuses
et ce qu'elle décrit, c'est vraiment les symptômes quand la maladie est extrêmement avancée.
C'est très avancé. Je pense que ce qu'on remarque dans l'interrogatoire, c'est que ça a été détecté trop tard,
trop tard.
Beaucoup des cancers en Afrique. En général, c'est des gens qui peuvent... avoir ces maladies pendant 5-10 ans sans pour autant consulter et malheureusement c'est trop tard.
Est-ce qu'il y avait justement, c'est un peu ce que demande Paul, est-ce qu'il y avait moyen de le savoir avant?
On a toujours des moyens de savoir, mais les signes, quand on a des douleurs au dos, quand on a mal partout et qu'on prend des médicaments, ça traîne des mois et des mois.
Ça veut dire qu'on va faire un bilan sanguin. Par exemple, on va dire au début de la maladie, cette personne ressentait une gêne, quelque chose. Si on lui avait fait un bilan sanguin, on aurait pu voir quelque chose.
On aurait pu voir, en fait, ce qu'on appelle l'électrophorèse des protéines. On dose juste une prise de sang, on va voir l'anomalie pour le myélome. On voit ce qu'on appelle des signes à miroir dans l'électrophorèse des protéines.
Est-ce que ça se voit tout bêtement sur les globules blancs, par exemple ?
Sur le globule blanc, moins pour le myélome. Mais juste quand même, dans la prise de sang, on le voit, une anomalie. Mais en général, les médecins généralistes ne pensent pas à demander ces tests spécifiques. En général, malheureusement, c'est l'hématologue qui a le réflexe ou le médecin interniste qui a le réflexe de demander.
Alors, il y a une autre question qui concerne cette fois le carcinome. Là, on va essayer de distinguer les deux, puisque c'est bien la question de notre auditrice Paul. Mélanome, carcinome, qu'est-ce qui les distingue ?
Alors, le mélanome, ça, c'est uniquement au niveau, ça peut être les muqueuses, ça peut être, mais 90%, c'est la peau. Donc, c'est, on va dire, c'est un cancer de la peau, le mélanome, qui n'a rien à voir avec un carcinome. Les carcinomes, ça reste les glandes. Donc, vous avez un carcinome mammaire pour le sein, un carcinome du pancréas, une glande. Donc, c'est le cancer des glandes, le carcinome. Donc, c'est deux entités complètement, c'est différent.
Et quand elle demande, est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps ? Alors, je ne sais pas pourquoi elle pose cette question. En tout cas, elle la pose.
Bien sûr. Donc, on peut avoir... Quelqu'un peut faire un cancer du sein. On peut faire un cancer du côlon, qui est des carcinomes. On peut faire un mélanome. Il y a des gens même qui font 3 cancers, 4 cancers.
Alors, on va rester ensemble, Dr Tambo Batili. On va poursuivre notre échange, retrouver d'autres auditeurs en direct. Ce sera juste après ce titre de Free Nationals et Chronique Eternal Light.
Good vibration, yeah. That's the positive vibes and we create, yeah. The sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah. Forever shining this light, we keep it blazing, yeah. Boy, forever shining this light, hey. Thank the Lord, my cup is full and running over. All who never like we are gonna love we know. Baby girl just text me, say she coming over. And when she reach, she want me fit, turn off the phone. Turn the lights down low, turn up the stereo, yeah. Alton Ellis, Gregory Isaac, Dennis Brown. Have you ever been in love? Now bad vibes can't stop this good vibration, yeah. That's the positive vibes we keep creating, yeah. Sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah. As long as we live in this life, we keep it blazing, yeah. As long as we live in this life, yeah.
Priorité santé sur RFI, Dr Tambo Batili, oncologue médical à l'Institut Gustave Roussia à Villejuif, répond aux auditeurs. On a une auditrice d'Abidjan, Stéphanie, qui nous a exposé sur Facebook le cas de l'un de ses amis qui est décédé d'un cancer du foie à l'âge de 52 ans. Cet ami avait présenté un hoquet persistant pendant des mois. Au départ, il a consulté un tradi, il est allé à l'hôpital et c'est là que le diagnostic du cancer du foie a été prononcé. Il y a eu une opération, une chimiothérapie. Une bonne réaction au départ, mais comme le traitement est venu à manquer, on a donné à cet ami un autre médicament. Là, son état s'est dégradé et il y a donc eu cette issue fatale au mois d'août dernier. Alors, le témoignage de Stéphanie qui a une question sur le lien entre le hoquet, hein, ça a duré donc plus de 6 mois, hoquet et cancer. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Dr Tambo Batili ? C'est quelque chose qui arrive ?
Le hoquet, c'est la conséquence... d'un cancer avancé. Donc, ça veut dire qu'il y avait des signes, probablement des métastases, qui comprimaient une partie du diaphragme, une partie des réflexes au niveau du foie. Et quand c'est ces stades, c'est avancé. Donc, en fait, il n'y a pas de rapport qui fait, on peut dire, c'est les conséquences de l'avancée du cancer du foie qui peut donner ces hoquets souvent infernales pour les gens.
Oui, on n'arrive pas à l'arrêter parce qu'évidemment, attention, hein, tous les auditeurs qui écoutent, qui s'inquiètent, Ce sont des cas exceptionnels de hockey persistant. On a entendu pendant des mois et des mois, ça rend complètement fou. C'est pas le hockey d'un petit qui se déclenche. On fait bien attention à pas tout mélanger. Dans le témoignage, Dr Bathily Stéphanie évoque également une question très importante, la rupture de traitement. Dans ce cas précis, c'était pas faute d'argent, c'était faute d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, justement? Finalement, il y a des patients qui se retrouvent avec des traitements qui marchent, puis il n'y en a plus, et puis on donne autre chose, et puis l'état se dégrade. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet?
Donc ça, c'est la logistique, un gros problème de fonctionnement, on va dire, des états. Hein. L'accès aux soins en termes de cancer, quand vous avez votre ordonnance pour acheter la molécule, il faut que ce soit le pays, la pharmacie, qui commande au laboratoire. Donc ça, c'est la difficulté d'accès, de régulation, qui est le rôle des autorités de santé à mettre en place un système de réapprovisionnement par rapport aux pharmacies. Aujourd'hui, même si on donne une ordonnance à quelqu'un pour venir payer une chimiothérapie en France, vous venez avec ordonnance, vous n'avez pas accès. Donc ça passe par une commande d'une pharmacie, la pharmacie populaire du pays.
Donc ça, c'est vraiment la responsabilité des pouvoirs publics. Et il faut mettre aussi les pouvoirs publics face à ces responsabilités. On ne peut pas se retrouver comme ça avec des personnes qui se retrouvent finalement privées de traitement et leur pronostic vital est directement engagé.
S'ils n'avaient pas d'argent, on peut comprendre. S'ils ont de l'argent, c'est une perte de sens. Faute de se procurer la molécule par rapport à l'accès, ça c'est vraiment...
Je vais vous dire, quand vous me dites s'il n'avait pas l'argent pour elle comprendre, mais moi non plus je ne comprends pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va rejoindre maintenant Port-au-Prince, Haïti, d'où Shirley nous a envoyé ce message sur le répondeur de l'émission.
Bonjour tout le monde, je suis Shirley. Ma question c'est concernant les périodes de récidivisme, concernant les personnes qui ont été victimes du cancer du sein. Il y a ma tante, il y a une amie qui était sur un traitement, qui avait une intervention chirurgicale, mais après, elles ont recommencé avec leur traitement. Pas mal de temps après, elles ont eu du récidivisme. Les signes et les symptômes ont été aggravés, et après quelques années, elles ont passé au traitement. J'aimerais savoir quelles sont les causes de ce récidivisme chez ces personnes-là qui ont été victimes du cancer du sein.
Rechute, récidive après un traitement, témoignage de Shirley, docteur Bathily. Alors pourquoi, c'est vrai cette question, dans certains cas, y compris après une chirurgie, un traitement, on pensait qu'on en était débarrassé, et non, là, il y a le retour de la maladie avec parfois une très très mauvaise nouvelle au bout du compte.
Alors ça, c'est le gros problème de la prise en charge en cancérologie. Au départ, on a un cancer, on arrive à opérer, on fait des chimiothérapies, donc en fait, les facteurs de risque de rechute dépendent de ce qu'on appelle des facteurs pronostiques qu'on trouve lors de la pièce opératoire. Si vous opérez une maladie, on va analyser quelques facteurs. Il y a ce qu'on appelle l'agressivité tumorale. Donc, plus la tumeur est agressive avec un niveau d'agressivité élevé, avec des ganglions qui sont atteints, on sait qu'il y a le risque de récidive, elle est importante. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre un traitement en place. Mais ces traitements, souvent, on n'arrive qu'à 80%. À essayer d'éradiquer les cellules qui sont déjà parties au niveau des ganglions lymphatiques, au niveau du sang. Malgré qu'on a fait un traitement, on arrive à maîtriser dans 80% de cas. Il y a 10 à 20% des cellules qui sont endormies, qui peuvent rester des années et qui vont faire des clones et qui vont se réveiller.
Ça veut dire qu'il faut un bon suivi, c'est ça?
Il faut un bon suivi pour détecter les récidives et qui peuvent être prises en charge à temps.
Alors, autre question d'une auditrice du Cameroun, Edith, sur la page Facebook de l'émission. Toujours à propos du cancer du sein, elle demande si un kyste bénin au sein peut, oui ou non, devenir un cancer.
Il faut poser le diagnostic très bien. Un kyste bénin, non. Après, il y a des tumeurs bénignes, qu'on appelle les tumeurs phyllodes, qui sont bénignes au départ. Il faut surveiller dans 5% de cas qui peuvent se transformer en malin.
Ça veut dire qu'on va pouvoir analyser ce kyste pour voir si ou non, à terme, il peut présenter des risques.
Des risques.
Donc, il faut faire une exploration.
Il faut faire une exploration pour être sûr que vraiment l'agressivité, elle est bénigne.
Une question beaucoup plus générale, ce que pose aussi cette auditrice du Cameroun, Edith. Sur la prévention du cancer du sein, effectivement, on connaît les facteurs environnementaux, on connaît les facteurs familiaux, génétiques, mais est-ce qu'aujourd'hui, une femme peut éviter d'une certaine manière les cancers du sein? Parce qu'il se dit aussi n'importe quoi. Moi, sur Internet, j'ai vu des soutiens-gorge, soi-disant, qui aideraient à lutter. Non, mais là, faut dire on arrête, hein. On peut dire le soutien-gorge ne provoque pas de cancer du sein, ni même quand il y a des armatures un peu rigides. Non. Donc les personnes qui nous vendent des soutiens-gorge anti-cancer du sein, c'est un mensonge.
Ça, c'est juste de la communication pour se faire de l'argent.
Donc, en termes de prévention, ça veut dire quoi, par exemple? La première chose, ce sont quoi? Les antécédents familiaux?
Alors, au niveau, on va dire, il y a les facteurs des risques. Les facteurs de risque de cancer du sein sont connus. Alors, quand on dit un facteur de risque, c'est un facteur qui peut favoriser le développement du cancer.
Ça ne veut pas dire que ça va le donner.
Ça ne veut pas dire, ce n'est pas systématique. On peut avoir un ou deux facteurs de risque, ce n'est pas systématique qu'on fait un cancer. Donc, dans le cancer du sein, on a l'alcool, par exemple, qui est un facteur de risque. On a l'obésité, qui est un facteur de risque. On a ce qu'on appelle les femmes qui n'ont pas eu d'enfants du tout, qui ont un facteur de risque. Donc, on énumère quelques facteurs de risque. Si on arrive à diminuer les facteurs de risque, on fait de la prévention de ces maladies. Et on arrive aussi à faire un dépistage précoce. Donc aujourd'hui, pour éviter cette maladie en 10 ans, on a des facteurs de risque, on essaie de réduire ces facteurs de risque, et c'est ça qu'on appelle la première prévention. Après, il y a le dépistage précoce qu'il faut mettre en route.
En route. On retrouve maintenant un auditeur en ligne du Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors vous avez 56 ans Jacques, est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous le voulez bien, suite à quels symptômes est-ce que vous avez consulté un spécialiste?
Oui, j'ai rencontré un neurologue suite à un problème de miction. J'ai constaté que je me levais un peu plus la nuit pour aller faire pipi 2-3 fois. Et quand je venais parfois, s'il fallait faire pipi, à un moment donné il fallait que j'aille vite. Sinon, je peux me mouiller.
L'urgence pour aller aux toilettes. Alors, quels examens ce médecin vous a-t-il fait pratiquer?
Bon, il m'a fait d'abord faire une PSA, ensuite une échographie.
Alors, je me tourne tout de suite vers notre spécialiste, hein, docteur Battili. C'est quoi le taux de PSA?
Alors, le taux de PSA, c'est ce qu'on appelle l'antigène spécifique de la prostate. Donc, on arrive à doser dans le sang cet antigène quand il est très élevé. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau de la prostate. Et quand on dit qu'il se passe quelque chose, ça peut être que si c'est très élevé, ça veut dire qu'il y a des cellules malignes. Donc c'est un marqueur qui permet de suivre un cancer de la prostate.
Alors tout à l'heure, vous parliez de ces problèmes d'urgence pour aller aux toilettes. Vous aviez aussi, vous avez dit ça en préparant l'émission, un dysfonctionnement érectile. Vous avez subi d'autres examens, Jacques?
J'ai fait la biopsie par la suite et puis le scanner, un scanner.
Et quel a été donc le diagnostic du médecin?
Le diagnostic du médecin, c'est que ma prostate avait une taille anormale, un peu plus grosse, je crois, et puis que le taux de PSA était anormal.
Il employait quoi comme terme quand il a parlé de la maladie?
Il m'a dit que voilà, il y a une tumeur, il semble qu'il y a une tumeur. Voilà ce qu'il m'a dit.
Et vous étiez inquiet à ce moment-là?
Oui, j'étais bien inquiet parce que les mots utilisés ne m'ont pas rassuré. Je ne me suis pas senti en confiance. Surtout que le médecin m'a envoyé sur Internet pour avoir les informations sur la maladie. Moi, ça m'a mis mal à l'aise.
Bah, je comprends que ça vous ait mis mal à l'aise parce qu'en général, c'est plutôt le contraire. Les médecins disent évitez d'aller sur Internet parce que vous allez voir des choses bizarres. Est-ce que ce médecin a employé directement le mot de cancer?
Non.
Il a dit quoi?
Il m'a parlé de tumeur jusqu'ici, mais par la suite, il a employé ce mot, par la suite. Donc, au fur et à mesure que, puisque j'ai fait plus de 8 examens là-bas, 8.
Ah oui. Et vous, est-ce que ça, vous finalement, est-ce que vous aviez envie qu'on emploie le vrai mot cancer, ou est-ce que vous préférez qu'on vous mette dans une sorte de petit nuage pour pas vous inquiéter sans dire le vrai mot?
J'avoue qu'avant, je n'aimais pas. Vous avez dit quelque chose au début.
Ouais.
Et c'est quelque chose que je partageais au début. Je n'aimais pas lire les pages où on parle de cancer.
Ouais, on tourne vite les pages, comme si ne pas le voir, ça allait nous en protéger d'une certaine manière. Et là, ce n'est pas le cas et vous l'avez vécu dans votre chair. Vous avez des questions à notre invité, Jacques, allez-y.
Oui, la question que je voulais poser, parce que mon médecin m'a fait deux propositions de traitement, il m'a parlé de radiothérapie et d'opération pour enlever la prostate. Et il me disait qu'il préférait l'opération pour enlever carrément la prostate. Mais les inconvénients, si on peut dire ainsi, sont énormes, tels qu'il m'a dit. Mais moi, je voulais savoir, entre la radiothérapie et cette opération qui consiste à enlever la prostate, quelle est l'opération indiquée ? Alors, à savoir que cette opération coûte excessivement cher ici au pays.
Oui, oui. En même temps, on ne va pas vous donner une réponse sur un diagnostic de cancer à la radio, vous le comprenez bien. Par contre, c'est vrai que l'opération, elle a des conséquences pour l'avenir, pour le bien-être, mais en même temps, ça peut aider aussi. Il y a toujours le pour et le contre, docteur Tambo-Battili. Évidemment, on ne peut pas donner une réponse comme ça de but en blanc. On dit que c'est quelque chose qui se passe entre le médecin et le patient.
Oui, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut tenir compte. On n'a pas tout le dossier, on n'a pas les éléments. Il y a ce qu'on appelle le stade de la maladie. Les biopsies, ils ont donné quoi ? Donc, il y a pas mal d'éléments qu'on n'a pas. Aujourd'hui, cette proposition, en tant que cancérologue, on voit le médecin, ça veut dire quand même que la bonne nouvelle, si on opère, ça veut dire que la maladie n'est pas partie ailleurs dans le corps. Ça veut dire que votre cancer est localisé au niveau de la prostate. Donc, on peut l'opérer ou faire de la radiothérapie. Donc, ces deux traitements en général, en gros, qui sont semblables. Et tout dépend du stade de la maladie. Alors, les conséquences de la chirurgie, il y a les conséquences aussi de la radiothérapie. Quoi qu'il en soit, il y aura des conséquences. Mais l'opération,
en général, je vais être concrète. Les conséquences, c'est sur la santé sexuelle, notamment. Sur l'érection.
Il y a l'érection. Il n'y a pas que... Il y a ce qu'on appelle des éjaculations rétrogrades. Donc, on n'a plus de liquide qui sort. Et donc, il y aura... Donc, compromis sur la sexualité, baisse de la libido.
Donc ça, et ça, c'est ça compte quand on a 56 ans.
Parce que, ouais, oui, ça compte beaucoup.
Évidemment, ça compte énormément.
Ça compte énormément.
Donc, on ne peut pas dire... Après, on ne va pas peser le pour et le contre en disant c'est soit votre santé sexuelle, soit votre vie tout court. Ce n'est pas le genre de choses qui est dit, parce que ça, ce n'est pas en des termes aussi lapidaires qu'on parle. Mais en même temps, c'est vrai que ce sont des choses qui comptent. Et puis, il y a aussi... On y revient, le facteur financier. Il faut pouvoir financer ces opérations. Et là encore, pour un certain nombre des auditeurs qui sont concernés, c'est un véritable casse-tête.
Aujourd'hui, dans le cancer, que ce soit le cas, tous les cancers, c'est la prévention, je pense qu'il faut mettre. Aujourd'hui,
oui, mais là, dans on arrive après coup.
On arrive après coup, donc... Là, il faut vraiment... Il y a certains pays qui ont commencé à faire l'assurance maladie obligatoire.
Ouais.
Donc ça, c'est, comme je vous dis, c'est politique, c'est la responsabilité des États à essayer d'aider. C'est des maladies chroniques qui coûtent trop cher, donc il faut
avancer
dans le système de santé.
Vous avez bien entendu, Jacques, l'important, c'est d'établir un bon dialogue avec votre médecin, de discuter toutes les options si vous avez des questions. Moi, je dis souvent ça, allez-y avec une liste, posez toutes vos questions et n'ayez pas peur de poser des questions. Moi, j'arrête pas d'en poser. Il n'y a pas de questions idiotes, surtout à un médecin et surtout quand c'est pour sa santé. Merci beaucoup pour votre témoignage, Jacques. Et on a maintenant le professeur Eric Solari en ligne. On va parler avec lui de la réédition d'un ouvrage qui apprend énormément de choses sur la recherche sur les cancers. Professeur Eric Solari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticien hématologue, vous enseignez l'hématologie à la fac de médecine de l'Université Paris-Saclay, vous présidez le conseil scientifique de la Fondation ARC, et d'ailleurs vous avez été directeur de recherche au sein de l'Institut Gustave Roussy, où exerce notre invité le docteur Battili. Professeur Solari, ce livre, Les révolutions de la recherche sur le cancer, pourquoi est-ce que c'était important de le rééditer aujourd'hui ?
Écoutez, donc on avait une première version du livre qui était sortie il y a presque une dizaine d'années maintenant. On a pensé d'abord l'actualiser et on s'est rendu compte que tellement de choses avaient changé en 10 ans qu'il fallait le réécrire complètement.
Et justement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette révolution, on l'a compris, qui dure déjà depuis plusieurs dizaines d'années ? Qu'est-ce qu'il y a en matière d'innovation, de prise en charge et de traitement ?
Alors, il s'est passé énormément de choses dans les 20 dernières années. D'abord, effectivement, le plus spectaculaire, c'est l'aspect thérapeutique, avec l'introduction à partir de 2000 de ce qu'on a appelé les thérapeutiques ciblées, c'est-à-dire qui permettent d'aller directement sur les anomalies responsables du cancer, les anomalies moléculaires. Donc c'est peut-être un petit peu technique, mais en tout cas c'est des médicaments qui sont beaucoup plus précis dans leur mode d'action. Et puis à partir de 2010, on a vu arriver un nouveau concept thérapeutique qui est l'immunothérapie, dans laquelle vous allez chercher l'aide du système immunitaire du patient pour éliminer le cancer.
Alors, il y a des nouveautés, il y a des défis et tous ces espoirs. Et vous pointez également un certain nombre d'obstacles. On pense bien sûr notamment à ces freins d'ordre financier.
Alors bien sûr, tous ces traitements ont un coût. Et d'ailleurs, les révolutions qu'on évoque vont bien au-delà simplement de la thérapeutique. Elles touchent la prévention qui a été évoquée par le docteur Battidi tout à l'heure, le dépistage précoce. Elles touchent aussi la prise en charge après le cancer. Tous ces aspects de la recherche sur le cancer sont en plein développement, mais tout ça effectivement a un coût. Je pense qu'on est dans une phase au cours de laquelle les nouveaux traitements en particulier sont très coûteux et donc difficiles d'accès dans certains pays. Et l'enjeu va être de trouver des solutions pour mettre à la disposition ces outils thérapeutiques, à la disposition du plus grand nombre dans les années qui viennent.
Un autre point important dans l'évolution, c'est le rôle de plus en plus important des patients. Ce sont plus simplement des survivants, mais sont vraiment aussi des acteurs de la lutte.
Alors ça, c'est vrai que c'est un autre aspect de la révolution, c'est-à-dire que les patients, les groupes d'avocats de patients, les citoyens sont de plus en plus impliqués dans les choix qui sont faits dans la recherche sur le cancer. Leur opinion compte, elle est essentielle pour maintenir un dialogue entre les chercheurs et les personnes concernées.
Merci professeur Solari d'avoir répondu à nos questions. Ouvrage pédagogique, l'éclairage de 25 experts également, des illustrations pour tout comprendre. Il nous reste un peu plus d'une minute, docteur Tambo-Battilio. On n'en a pas forcément parlé, mais ça concerne aussi une partie de nos auditeurs. On a bien compris qu'il n'y avait pas de certitude, il n'y a pas d'évidence en matière de cancer. Ça veut dire que quand un médecin, quel qu'il soit au village, qu'il soit dans un centre médical, vous dit « moi j'ai le remède miracle », il faut y aller doucement, faut pas forcément croire n'importe qui et n'importe quoi quand on parle du cancer.
Quand on parle du cancer, remède miracle, il faut se chercher. Là, vraiment, vous avez des signes qu'il faut aller à l'hôpital.
Il faut aller à l'hôpital.
À l'hôpital, à pas n'importe quel hôpital, il faut dans un centre qui soigne les malades atteints de cancer.
Et c'est là aussi, c'est important que la spécialité soit bien définie. Évidemment, on a compris que ces cancers étaient très diversifiés, très singuliers. C'est plus une famille de maladies qu'une simple maladie.
C'est plutôt une famille. Et là, aujourd'hui, la prise en charge du cancer, on commence à se spécialiser. Vous avez un cancérologue. Aujourd'hui, c'est comme un médecin généraliste. Donc, on a un spécialiste qui fait que le cancer du sein, un spécialiste pour la prostate par organe. Donc, là, aujourd'hui, urgence, c'est de former les personnels, beaucoup des cancérologues, pour qu'on puisse prendre par localisation.
Pour affiner, les prises en charge. Un grand merci d'avoir répondu à nos questions, docteur Tambo-Battilli. Je rappelle que vous êtes oncologue médical à Gustave Roussy, membre de l'ONG Oncomalie.
RFI.
Le sommeil et ses liens avec notre santé mentale, bien dormir, associé au bien-être psychique ou à l'inverse, trouble du sommeil et trouble anxieux ou dépressif. On en parle avec vous, docteur Isabelle Poirot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre spécialiste des troubles du sommeil au CHRU de Lille, dans le nord de la France. Est-ce que d'une certaine manière, docteur Poirot, les soignants ont évolué sur leur perception du rôle du sommeil en matière de santé mentale ? Prendre en charge l'insomnie, finalement, ça fait aussi partie de la prise en charge globale du trouble psychique.
Alors tout à fait. Alors je pense qu'il y a un vrai changement dans la perception du concept des troubles du sommeil et surtout de leur intérêt et de l'intérêt de leur prise en charge dans la pathologie mentale. Ces 10-15 dernières années, on voit qu'il y a vraiment une prise en considération particulièrement intéressante. Alors il y a encore des progrès à faire, mais en tout cas, alors c'est vrai que l'insomnie, on le sait depuis fort longtemps, qu'il y a un vrai risque de développement de troubles dépressifs. On connaît le lien entre insomnie, gestion du stress, anxiété et dépression. Mais par contre, la prise en charge concomitante de l'ensemble des problèmes. C'est quelque chose qui est assez nouveau et qui date d'il y a une dizaine d'années. Donc c'est vraiment une avancée particulièrement intéressante. Et pour reprendre ce que ont dit mes collègues oncologues, on sait que le sommeil, c'est aussi important en cancérologie, par exemple, pour faciliter les prises en charge. Donc c'est tout ça, ce sont des nouvelles avancées qui sont particulièrement actives actuellement.
Est-ce qu'il y a des études, des chiffres qui permettent de nous renseigner sur ces liens entre troubles du sommeil et troubles anxieux, par exemple, ou dépression ?
En gros, vous avez à peu près plus d'un tiers, voire jusque 50% des patients qui ont des problèmes, par exemple, dépressifs, qui vont présenter une insomnie. Ouais. Mais aussi, on n'y pense pas suffisamment, mais vous avez aussi l'autre moitié qui va présenter, par exemple, des problèmes d'hypersomnie ou de somnolence diurne excessive. C'est quelque chose qu'on met facilement sur le compte des médicaments, mais qui peuvent être vraiment liés à la pathologie mentale. Et ensuite, vous avez à peu près une vingtaine de pourcents des patients qui ont des problèmes d'insomnie qui sont susceptibles d'avoir des troubles dépressifs. Après l'anxiété, quelqu'un d'anxieux, on peut penser que à 90%, il a 90% de chances d'avoir un problème d'insomnie du fait de rumination et d'anxiété d'anticipation. Donc souvent, ça se passe la nuit. Et quand vous avez des insomnies, en fait, l'insomnie est plus liée à des problèmes de gestion du stress et de mauvaise régulation des émotions. Donc ce sont des proportions qui ne sont quand même pas négligeables.
Et cette qualité du sommeil, elle se joue pas simplement au moment de se coucher. Hein. Par exemple, vous avancez le terme d'écosystème, l'expression d'écosystème de notre sommeil. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, il faut bien avoir en conscience que pour bien dormir, on a besoin d'un certain environnement qui soit propice au sommeil. Donc, c'est-à-dire qu'on doit dormir dans un environnement qui soit sécurisé, qui soit silencieux, qui soit plutôt dans l'obscurité, parce que c'est ainsi que notre sommeil va pouvoir, enfin notre cerveau va pouvoir aller progressivement vers le sommeil et que les processus de mise en route du sommeil vont se mettre en place. Et ce qui fait que lorsque notre société malmène tout cet écosystème qui existe et toutes ces conditions de sommeil par l'éclairage public, par exemple, par les bruits, notamment les bruits des villes, mais pas que, il y a aussi des bruits près des aéroports, etc. Et donc, vous avez tout cet écosystème qui est mis à mal et qui peut donner des mauvaises conditions de sommeil. Ensuite, on peut aller même plus loin puisqu'on prépare son sommeil pendant la journée. C'est-à-dire que notre qualité de sommeil va aussi dépendre de notre qualité de vie la journée. Et si vous avez, par exemple, un travail avec des horaires un peu décalés, le télétravail qu'on peut faire à n'importe quelle heure, etc., vous pouvez avoir un impact, en fait, sur le sommeil aussi.
Et la question des écrans aussi. Merci. Excusez de vous avoir un petit peu coupé la parole. Merci beaucoup, docteur Isabelle Poirot. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui prépare et réalise l'émission. Ophélie Lassen, Louise Calédet, Didier Bleu, Raphaël Lazizi aujourd'hui. Demain, émission Questions de femmes. On va parler des relations toxiques. Identifier ces personnes qui nous font du mal en prétendant nous vouloir du bien. Reconnaître ces liens malsains. Savoir s'en détacher. On se retrouve à 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.